Radio Okapi.
Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, thème choisi en RDC, la liberté d'expression à l'épreuve de l'insécurité, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce mercredi deux hommes d'une capacité d'accueil de 720 étudiants de l'UPN. C'est le couronnement d'une première phase de réhabilitation pour améliorer les conditions d'études dans l'établissement. Notre invité, c'est Léon Elongo Kandakanda. Cet ancien journaliste de la RTNC Bukavu à la retraite actuellement parle de ses 50 ans de carrière. Il a été décoré aujourd'hui à Goma de manière spécifique par la corporation de l'UNPC. Madame, messieurs, bonsoir. Commémoration aujourd'hui, mercredi, de la journée mondiale de la liberté de la presse. Thème choisi en RDC, la liberté d'expression à l'épreuve de l'insécurité, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Ici à Kinshasa, le ministère de la Communication et des Médias a organisé une cérémonie au fleuve Congo Hôtel en présence du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les différents intervenants ont parlé des avancées enregistrées dans ce domaine avant de mettre les professionnels de médias devant leurs responsabilités. C'est un reportage de Jacques-Yves Moulima.
Prenant en premier la parole, le président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, Gabi Kouba, a appelé les professionnels de médias à la prise de conscience.
Notre presse est impérativement appelée à se désolidariser et à quitter des cercles complotistes. Convertissez-vous et retirez vos micros, vos caméras et vos plumes de la conspiration contre la République.
Entre-temps, la RDC s'est tout de même mieux comportée en matière de la liberté de la presse, a dit Tivis Tivodi, président des journalistes en danger, GED.
Au dernier classement qui vient d'être publié il y a quelques heures, la RDC se positionne à la 124e place sur 180 pays du monde. En 4 ans donc, la RDC a gagné 30 places dans ce classement qui est le baromètre mondial de la démocratie.
Une avancée que le ministre de la Communication et Média, Patrick Muyaya, attend consolider avec
la consécration du droit de réponse comme une réparation à l'égard de la personne lésée. À défaut, les instances judiciaires pourraient alors être saisies par la personne lésée. Nous pensons ici avoir fait un pas considérable dans la marche vers la dépénalisation, objectif qui ne pourra être atteint que si nous parvenons en amont à réussir la salubrité médiatique.
Présent à cette manifestation, le président de la République a mis un point d'honneur sur la consolidation de la démocratie par des débats politiques dans les médias en RDC en cette année électorale. Félix Tshisekedi Tshilombo a également appelé à la responsabilité des journalistes. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Moulima.
Comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale qui, comme il peut être observé sous d'autres cieux, se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés et sur toute autre plateforme médiatique. Je voudrais ici rappeler votre responsabilité dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages. Mais aussi, je voudrais vous exhorter à utiliser vos plateaux et vos différents médias pour favoriser un débat politique sain, lequel permettra à la fois à vos invités ainsi qu'à vos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs d'être édifiés sur la nature des offres politiques leur proposées sous forme de programmes et propositions par les candidats. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC en sigle, dans son rôle de régulateur, devra y veiller. Il en va de la qualité de notre démocratie.
Et au Nord Kivu, pendant ces temps, les journalistes sont également appelés à plus de responsabilités en ce moment où la province est en proie à l'insécurité. Appel lancé par le vice-gouverneur de province aux professionnels de médias de la province. À Goma, le récit de Bernard Denyangui.
Ce 30e anniversaire de la liberté de la presse a pris à Goma le rythme d'une journée entière d'activités, d'échanges et de sensibilisation. Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, les journalistes, devrait avoir une conduite disciplinaire. Commissaire divisionnaire Romuald Kalipopo.
Aussi vrai que nous, le gouvernement provincial, nous devons tout mettre en œuvre pour tracer un cadre pour le travail de journalistes, car c'est de leur travail que la population est formatée. Aussi vrai que les journalistes, de leur côté, doivent suivre une certaine déontologie.
À la chef de bureau de la MONUSCO Goma d'appeler les journalistes à plus de responsabilités en ce moment de crise. Laïla Bouril.
La responsabilité et le rôle crucial des journalistes, autant dans l'exercice de la liberté d'expression que dans la diffusion d'une information fiable et vérifiée, c'est justement dans les périodes de crise que les populations ont particulièrement besoin d'une information vraie, précise et fiable, afin de garantir leur sécurité et leur bien-être.
En cette journée de commémoration, les journalistes ont déploré des atteintes à la liberté de la presse, dont au moins 11 ont été enregistrées depuis le début de cette année 2023 en province. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Et en Ituri, les journalistes sont régulièrement menacés et intimidés pour avoir diffusé des informations sur les exactions commises par des miliciens et d'autres nouvelles qui gênent le pouvoir. Le cas le plus récent, c'est celui d'un membre de la corporation qui a été kidnappé mardi dernier par des inconnus et acheminé dans un bastion des miliciens dans les territoires de Djougou avant d'être relâché après. Un autre journaliste avait été abattu l'année dernière par un militaire des FARDC dans la localité d'Otmaber, dans les territoires d'Irumu. La présidente de l'UNPC plaide pour la protection des journalistes. C'est ce que nous explique à Bounia, Isaac Remoyope.
Les journalistes travaillent dans un contexte difficile d'insécurité dans la province d'Ituri, affirment les bureaux de l'INPC dans cette province. Ils sont chaque jour victimes des intimidations et des menaces par les groupes armés et certains services de l'État pour avoir diffusé des informations sur les exactions des milices et d'autres actualités qui gênent le pouvoir. Parmi les graves atteintes à la liberté de la presse, la présidente de cette structure cite le meurtre d'un journaliste en novembre 2022 par un militaire des FARDC à Otmaber dans les territoires d'Irumu et l'enlèvement hier mardi à Bounia des membres de l'INPC par des inconnus qui l'ont acheminé dans un bastion des miliciens à Petro dans les territoires de Djougou. Christina Bedito en dit que certains journalistes ont renoncé à ces métiers et d'autres ont résolu de s'abstenir de traiter des informations sur la sécurité et la politique pour préserver leur vie, ce qui selon elle constitue une entrave à la liberté de la presse en Ituri. Elle lance une alerte au gouvernement.
Nous enregistrons plusieurs violations de la liberté. Déjà nous pouvons parler de 5 cas graves. Il y a même les cas de mort même, des gens qui demandent à la rédaction, aux journalistes de ne pas passer l'information telle qu'est requise sur le terrain. Et il faut changer.
Nous n'avons pas encore la réaction des autorités de l'état de siège à ce sujet. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies rappelle que la liberté de la presse est le fondement de la démocratie et de la justice. Selon Antonio Guterres, c'est depuis 30 ans que la communauté internationale célèbre le travail des journalistes qui est important pour façonner l'opinion et dire la vérité aux détenteurs du pouvoir. Antonio Guterres s'inquiète cependant que la liberté de la presse soit attaquée partout dans le monde. Explication de Junior Inki.
La vérité est menacée par la désinformation et les discours des haines qui cherchent à brouiller la frontière entre les faits et la fiction, entre la science et les complotismes. Le fait que l'industrie des médias soit de plus en plus concentrée entre les mains de quelques-uns, l'effondrement financier des dizaines d'organes de presse indépendants et la multiplication des lois et règlements nationaux qui musellent les journalistes aggravent la censure et menacent davantage la liberté d'expression. Parallèlement, les journalistes et les autres professionnels des médias sont directement pris pour cible, en ligne et hors ligne, alors qu'ils accomplissent leur travail d'une importance vitale. Ils sont régulièrement harcelés, intimidés, faits prisonniers et maintenus en détention. Le secrétaire général révèle par exemple qu'au moins 67 professionnels des médias ont été tués en 2022, soit une augmentation des 50% par rapport à l'année précédente. Près des trois quarts des femmes journalistes ont subi des violences en ligne et une sur quatre a été menacée physiquement. Chaque année, en cette journée mondiale de la liberté de la presse, le monde doit s'exprimer mais d'une seule voix, poursuit les secrétaires générales avant de dire « Cessez de vous en prendre à la vérité et à celles et ceux qui la font jaillir. Le monde s'y tient aux côtés des journalistes qui osent défendre la vérité. »
Dans l'actualité, il y a également l'inauguration ce mercredi à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi Tshilombo de deux hommes d'une capacité d'accueil de 720 étudiants de l'UPN, l'Université Pédagogique Nationale. Il s'agit du couronnement d'une première phase de construction et réhabilitation en vue d'améliorer les conditions d'études dans cet établissement. Le compte rendu de Billy Valutumba.
La transformation radicale.
Les gestionnaires de le premier des deux hommes de 6 étages pour des garçons dispose de 70 chambres de 6 lits, 6 armoires et 6 bureaux chacune. Il est doté aussi d'un ascenseur. Le deuxième bâtiment de 3 étages dispose lui de 50 chambres avec une buanderie commune. Les étudiants y ont également droit à une connexion Wi-Fi gratuite. Motif de satisfaction de quelques apprenants approchés.
Ça m'a vraiment stimulé, ça m'a donné vraiment la force surtout de fréquenter le université pédagogique parce que avec les hommes, ça va nous faciliter encore beaucoup de tâches pour que les étudiants puissent trouver de bonnes places à habituer.
Je suis encore satisfait parce que celui qui est à l'étranger et celui qui est à Kinshasa précisément, à l'UPEN, il n'y a pas une différence que je peux dire en quelque sorte.
Les gestionnaires de l'UPEN représentés par la rectrice ont exprimé en leur manière leur reconnaissance. Anastasie Mansanga.
La transformation radicale de l'UPEN qui est en train de se concrétiser et c'est à pas de géant. Excellence, c'est du lourd, c'est du béton.
Signalons que la deuxième phase des rénovations du homme pour filles et construction d'autres nouveaux bâtiments est en cours en vue d'offrir de l'espace aux milliers d'étudiants de l'UPEN qui, parmi eux, n'ont cessé de réclamer dans la foule le rabais des frais académiques.
Revenons un instant au Nord Kivu où la tension est montée d'un cran ce mercredi dans quelques villages du groupement des Tongo dans les territoires de Rutshuru. Selon des sources locales, les affrontements ont repris hier mardi entre quelques miliciens et des présumés rebelles du M23. Des maisons ont même été incendiées et au moins 200 vaches abattues. À Goma, des précisions avec vous, Bernard Danyangi.
Tout a commencé vers 7h locales hier mardi quand un groupe de miliciens Yatoura aurait été attaqué par des présumés rebelles du M23 dans le village Lubwe Sud, en groupement de Tongo et à Chongi, groupement de Bukombo, chefferie de Buito, selon certaines sources contactées à Tongo. Ces sources indiquent qu'au moins 3 maisons d'habitation appartenant aux civils ont été incendiées par les rebelles à Lubwe Sud et les crépitements des balles ont paniqué les habitants, forçant quelques-uns à se déplacer vers Tongo Centre. Par ailleurs, indiquent nos sources, vers 11h20, d'autres miliciens ont tendu une embuscade au niveau de Kalengera dans le parc national de Virunga à un groupe d'éleveurs qu'ils ont accusé d'être des rebelles M23 habillés en civil et qui a mené des centaines de vaches de Bichoucha vers la chefferie de Bouicha. Au moins 200 vaches auraient été abattues, affirment nos sources. Elles indiquent que les éléments de contingent sud-soudanais et kenyan déployés à Tongo ont dépêché une patrouille au niveau de Kalengera et qui a réussi à sauver d'autres vaches. Mais la situation reste confuse dans cette zone où des tensions continuent de monter entre les rebelles et le groupe de miliciens qui se multiplient de jour en jour. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Partons maintenant pour la province du Kwango où les cours ont repris hier dans les écoles du territoire de Kaemba. L'intersyndicale des enseignants a mis ainsi un terme à la grogne observée depuis 2 semaines à cause du non-paiement des 4 mois d'arriérés des salaires. Des précisions avec le porte-parole de cette structure syndicale, l'abbé Maurice Wingi, s'est confié à Irène Bouma.
2 recommandations au gouvernement, éradiquer la gangrène, nouvelle unité et non payer de la liste des enseignants du territoire de Kaemba au primaire comme au secondaire. 2, déverrouiller la mécanisation et la budgétisation des bureaux gestionnaires à la banque Equity BCDC. Vu la distance entre Kinshasa et le territoire de Kaemba qui va au-delà de 1000 km, vu l'état de la route impraticable entre Kikwit et Kaemba, vu le retard de la paie criant dont l'enseignant de Kaemba est victime, nous exigeons l'implantation de la banque ici à Kaemba afin d'assurer la paie mensuellement, faute de quoi nous exigeons la résiliation du contrat et cela sans aucune autre condition. De tout ce qui précède, la synergie des syndicats des enseignants de Kaemba décrète ce qui suit. 1. La levée de la grève des enseignants sur toute l'étendue du territoire. 2. La fin des journées écoles sans enseignants décrétées les 17 avril, la reprise des activités scolaires de mardi 2 mai 2023.
Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, un parti politique d'opposition, ont signé mardi après-midi à Abidjan, la capitale, un accord de partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie dans un pays à l'histoire récente marquée par des actes de violence politique. Non loin de là, au Sénégal, une personne est morte de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dite fièvre du Congo, une maladie virale qui se transmet quotidiennement par des tiques. Le ministère de la Santé publique affirme que le cas a été reconstruit. Un boucher qui était en service aux abattoirs de la ville de Dakar, la capitale du pays, a été déclaré malade le 21 avril, puis décédé le lendemain. Et puis la Russie accuse aujourd'hui mercredi l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner le président Vladimir Poutine. La présidence russe affirme avoir abattu deux drones ukrainiens la nuit dernière, des drones qui tentaient d'attaquer le Kremlin à quelques jours des célébrations militaires à Moscou. Vladimir Poutine, le chef de l'État russe, n'a pas été blessé. L'Ukraine nie en bloc ces allégations.
L'invité.
Notre invité, c'est Léon Elongo Kandakanda, cet ancien journaliste de la RTNC Bukavu, actuellement à la retraite, parle de ses 50 ans de carrière dans la profession. Il a été décoré aujourd'hui à Goma de manière spécifique par la corporation de l'UNPC. Il est interrogé par Bernard Nyangi.
Monsieur Elongo Kandakanda, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui en retraite, après 50 ans de service comme journaliste, quel est le sentiment?
Double sentiment, des joies, de satisfaction pour avoir atteint l'objectif. Quel objectif? D'informer, de former et parfois d'être le porte-parole d'une certaine couche de la population.
Nous pouvons avoir une idée sur votre parcours.
Mon parcours de 50 ans, je peux le résumer en quelques mots. J'ai commencé ma carrière en 1972 au journal Djoua. Vous comprenez, c'est la presse écrite. À l'époque, c'était l'hebdomadaire du Kivu avant le découpage territorial. 8 ans dans la presse écrite au journal Djoua, j'étais dans l'audiovisuel à l'Ozerté. Nous sommes en 1981 à l'Ozerté, à Bukavu. J'ai évolué dans l'Ozerté jusqu'au changement de l'Ozerté à RTNC. J'ai accompagné tous les processus jusqu'à ce jour.
Pendant votre parcours, c'est là que les Nations Unies ont situé cette journée que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui, de la liberté de la presse. Quelles sont les expériences que vous pouvez partager par rapport à ça?
L'expérience, c'est d'abord l'amour de notre métier, l'amour de la patrie, être utile à la nation, à la société, respecter l'éthique et la déontologie, informer objectivement et rendre service à ceux que nous avons toujours appelés les voix des sans-voix. Ensuite, parfaire son travail, aimer son travail.
Alors, pendant les 50 ans de parcours, vous avez dû avoir vécu des bons et des mauvais moments. Vous avez couvert des grands événements. Lesquels vous sont restés en tête comme des grands souvenirs?
Les bons souvenirs que j'ai eus, j'ai participé. Où j'étais présent au discours du maréchal Mobutu Sese Seko, le 24 avril 1990, j'étais dans la salle.
Où ça?
Lorsque il a prononcé son mot de multipartisme. Donc nous avons quitté le monopartisme. Et les journalistes qui travaillaient à cette époque-là n'avaient qu'une seule voix. Donc vous ne pouvez pas aller en dehors de ce que le MPR a décidé. Dans le multipartisme, bon, on a trouvé une ouverture. La voix du Zaïre à cette époque avait le monopole d'expression dans l'audiovisuel. Ça, c'est le premier souvenir. Donc, ouverture.
Pour les mauvais souvenirs.
Mauvais souvenirs. Pendant la rébellion du HCD, j'avais été inquiété, enlevé par les hommes non autrement identifiés. J'ai été séquestré quelque part pendant 3 jours. J'ai recouvré ma liberté grâce au gouverneur de l'époque, Eugène Serufulinga Baseka, et le commandant de la 4e région militaire de l'époque, c'était le commandant Tangou Fort. C'était vraiment un mauvais souvenir parce que j'ai été maltraité, malmené et torturé. Bon, Dieu merci, quand les deux autorités ont tout fait pour me retrouver, j'ai été récupéré par la MONUSCO. Là aussi, j'ai dit merci parce que la MONUSCO aussi m'a encadré pendant une semaine et me ramener chez moi à la maison. Et la MONUSCO avait mis un service de sécurité pendant 2 mois pour surveiller les alentours de chez moi, me sécuriser pendant 2 mois, jour et nuit. Jusqu'à ce que moi-même, je leur avais dit que je ne suis plus inquiété.
Et peut-être pour terminer, aujourd'hui nous sommes en train de commémorer une journée très importante de la liberté de la presse, instituée par les Nations Unies. Quel est le message que vous avez à nous, les jeunes journalistes, en cette occasion?
Le message, le premier, je l'adresse aux autorités du pays, d'appuyer les journalistes, de protéger le journaliste et de lui faciliter la tâche, je vais dire, l'accès aux sources d'information. Pour le journaliste, de valoriser notre profession. C'est un métier noble. Évitons de nous rabaisser, d'être les marchepieds pour des petits riens. Respectons la ligne éditoriale, chacun dans sa maison de presse, et l'éthique et la déontologie pour parfaire notre métier.
Monsieur Léo Elongo Kanta Kanta Masti.
À vous aussi, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, Léon Elongo Kandakanda, cet ancien journaliste de la RTNC Bukavu, actuellement à la retraite, a été interrogé aujourd'hui à Goma par Bernard Denyangi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.